Et matin, j'ouvre la maison France Inter.
Brigitte Patient.
Et quoi de plus agréable, chers auditeurs, vous êtes là.
D'ailleurs, dans la culture tzigane, l'important, c'est l'autre.
Vous êtes né ailleurs et vous vivez en France.
D'où viens-tu ?
Soyez les bienvenus.
As-tu oublié ta culture ?
Vos passions, vos lieux fétiches, vos rêves, emmenez-nous aussi dans vos jardins secrets.
Je vis dans une photo de Douaneau et dans les décors de Tronner.
Pour participer à l'émission, laissez-nous un message à l'adresse suivante. unjourtoutneuf@radiofrance.com ou sur le site franceinter.fr.
5h, 6h.
Un jour tout neuf.
Du lundi au vendredi, sur France Inter.
Radio France, partenaire du nouveau défi de Philippe Croizon, nager au-delà des frontières. Philippe Croizon est handicapé, amputé des quatre membres. Avec Arnaud Chassery, ils vont unir leurs forces pour relever un incroyable défi. Relier ensemble, à la nage, les cinq continents.
Un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans la main, on relie symboliquement les cinq continents. Ça veut dire que tous les deux, on efface des différences.
Première traversée, Wutung en Papouasie jusqu'à Mabo en Indonésie. Retrouvez Philippe Croizon et Arnaud Chassery dans les émissions de France Inter, sur radiofrance.fr et sur nagerau-delà-des-frontières.com.
France Inter.
La différence.
Vous écoutez France Inter. Tout de suite là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet et Bip Bip.
Bonjour, c'est Hervé de Villefort en Lozère. Bonjour Daniel, bonjour à ton équipe, bonjour aux MG et à Denis Anime aussi. Alors voilà, c'est une petite lettre que j'envoie à Martine Aubry, bien entendu. Donc, chère Martine, tu n'es pas contente. Oh non. Un certain Jean-Luc vient piétiner tes prix ondulants sous une brise marine. C'est un scandale. Tu penses pouvoir terrasser toute seule la bête blonde. Enfin, Martine réfléchit. Elle est un fond d'eux et a de ses mieux. Tu as un grand cœur, Martine, et tu en es le chef. Mais n'oublie surtout pas que Jean-Luc et sa troupe t'ont amené plus de 4 millions de choristes. Et ceci pour que nos printemps chantent fort et juste. À bientôt, Martine. Au revoir. Salut à tous.
Salut Daniel, salut toute l'équipe et salut à tous les AMG. C'est Gabriel du Café Repère de Barcelone. Là, je suis avec les copains de Madrid. On vient de sortir de la Plaza Puerta del Sol, qui était pleine à craquer pour l'anniversaire du 15 mai. Les rues étaient noires de monde pour accéder à la place. Sur la place, c'était vraiment très très dense. Pas de drapeau, pas de signe des partis. Tout le monde a bien respecté la consigne, mais il y avait plein de petites affiches faites à la main. Voilà, une grande diversité de gens aussi, des jeunes, des vieux. Il y a plein de gens qui sont venus avec les poussettes, les bébés, tout ça. Très bonne ambiance. Il fait assez chaud là à Madrid aujourd'hui. Toutes les rues adjacentes à la Puerta del Sol sont remplies, blindées de monde. D'ici une heure, la manif deviendra illégale parce qu'on a la permission de 10 heures. Donc voilà, donc à 10h, à 22h... on deviendra tous criminels là sur la place.
Bonjour à tous. Claude Guéant va nous manquer. Saviez-vous que le dimanche 6 mai, il a fait publier un petit décret en catimini concernant la loi LOPCI 2. Vous savez, cette fameuse loi qui renforçait le système policier. Alors, cette fameux décret, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fusionne tout simplement le fichier STIX des policiers avec le fichier JUDEX de la gendarmerie. Big Brother is watching you. Et ce qui est le mieux, c'est que ce fichier, maintenant, il va pouvoir également incorporer les systèmes de reconnaissance faciale et on va pouvoir ainsi exploiter les vidéos de tous bords qu'on récupère dans toutes les caméras de surveillance un peu partout. Big Brother is watching you. Merci Claude Guéant, tu vas vraiment nous manquer.
Eh oh, les amis de Lille et du Nord, bonjour. Bon, les élections, c'est bien, hein, mais moi, il me faut une majorité. C'est important. Alors, venez très nombreux, ce lundi soir 14, à 20h, au Café Repère L'Imaginaire, dans le Vieux-Lille. À ce soir.
Et si, contre toute attente, François emportait le morceau à Berlin? La Grèce en ébullition, l'Espagne indignée et Merkel, qui prend une claque électorale avec son austérité obtuse. Ouais. Si notre François était le grain de sable dans la mécanique implacable de ce libéralisme fou, on l'a peut-être sous-estimé après tout. Bah, on peut rêver sur ça de prix. C'est Christine du Limousin.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Petit coup de gueule d'une maman de deux jeunes autistes. dont l'aîné va avoir 18 ans et se retrouve depuis un an sans prise en charge parce que son IME ne veut plus le gérer à cause des troubles du comportement. Il a passé l'hiver à l'hôpital psychiatrique et je l'ai finalement récupéré à la maison. J'ai dû arrêter de travailler depuis un mois. Je suis épuisée et démoralisée. Je rappelle à notre nouveau gouvernement que l'autisme a été déclaré grande cause nationale, mais que s'est-il passé depuis le début d'année? Ben, pas grand-chose. Alors voilà, on espère tous que ça va changer et que des situations comme la mienne, qui est loin d'être unique, ne se vivront plus en France désormais dans les années à venir. J'en profite pour faire un peu de pub à l'association départementale Autisme 15 dont je fais partie, ADA 15, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Bon courage à tous les parents et à tous les enfants porteurs d'autisme de France, parce que la lutte est loin d'être finie.
Merci pour ces messages, chers AMG, jamais les oreilles loin du front, c'est votre devise, la devise des auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales de là-bas, si j'y suis, jamais les oreilles loin du front. Ah, mais lequel? Quel front? Depuis ce week-end où on a appris ce qui va se passer dans le Pas-de-Calais. Autour des Beaumont, on se demande de quel front nos oreilles et vos oreilles sont si proches. Eh ben, on aura des éléments de réponse dans aujourd'hui, dans là-bas si j'y suis, avec un reportage d'une étudiante de l'école supérieure de journalisme de Lille. Figurez-vous que chaque année, vous vous en souvenez peut-être pour les fidèles de là-bas si j'y suis, chaque année, l'école supérieure de journalisme de Lille demande à là-bas si j'y suis de mener un stage de formation au grand reportage radiophonique. Et on y va avec Antoine Chao et moi-même, avec beaucoup de plaisir à la rencontre de ces étudiants. Vous doutez bien que nous sommes des militants du reportage radiophonique, de cette forme d'expression radiophonique qu'on appelle reportage, mais qu'on peut aussi bien appeler documentaire, selon les approches, selon les techniques, selon les angles. On peut dire que c'est même aujourd'hui la marque de fabrique de Radio France, la plus originale en tout cas, qui fait sans doute, qui contribue très très largement à la qualité de notre auguste maison du reportage radiophonique. Vous en avez sur France Inter, pas mal, et qui est de très bonne qualité, sur France Culture également, et sur le Move et sur Radio Bleu. On en trouve aussi un peu dans quelques radios associatives qui s'accrochent, sur Arte, excellente forme d'objets radiophoniques qui ne sont pas tout à fait de la radio, mais qui sont bel et bien des constructions sonores passionnantes. Bref, vous avez compris qu'il s'agit d'une forme que nous aimons particulièrement et que nous pratiquons quotidiennement. Et donc, ces étudiants, chaque année, mais sous notre houlette, se livrent à ces reportages, recherches de sujets, enregistrements, montages, mixages, etc. Cette année, on a avec Antoine gardé deux sujets que vous allez écouter. L'un sur les routiers, sur la vie des routiers. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est plus que c'était autrefois, autant une émission magnifique. Je crois que c'était sur Europe 1 ou sur RTL qui s'appelait Les routiers sont sympas. Aujourd'hui, c'est très tendu dans ce métier avec à l'heure de l'Europe. Et puis, on fera le portrait, une étudiante, Maude, a fait le portrait d'un électeur du Front National. Comment fonctionne quelqu'un qui vote pour le Front National? D'où vient-il? Quel est son parcours? Ses convictions? C'est nos sujets du jour. Là-bas, fait des petits. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale. Au 01 56 40 37 37.
Bonjour, le Café Repère 58 de la Nièvre aura lieu ce mardi, juste au milieu de ce joli mois de mai, le mardi 15 à 20h, comme d'habitude chez Bourac, le Café des Copains à bord. C'est au 5 rue Saint-Didier, en plein Nevers, juste à côté du marché Carnot. et nous vous y attendons nombreux pour discuter de tant de sujets. À bientôt.
Et paf, Unilever va encore délocaliser, détruire des emplois industriels, comme ça, ça grogne un petit peu et on se dit, ils se disent, on déménage le matériel et puis on ira produire ailleurs, les Français vont chier. Eh ben, plutôt que de voter Marine Le Pen, les gens, vous pourriez pas prévoir de boycotter ce genre de marque avec ce genre de comportement? C'est si dur que ça de boycotter, non? D'aller essayer de menacer de consommer ailleurs que ces marques de voyous? Ben, réveillez-vous un peu, merde! C'est déjà fashion manique. Salut les AMG, salut Daniel. Un petit message peut-être un peu trivial pour une fois dans cette émission à l'élévation d'esprit évidente, mais finalement on voudrait un changement, soi-disant, dans ce pays, alors que on observe qu'il y a des concentrations phénoménales, des monopoles gigantesques, par exemple dans la distribution. Je prends l'exemple de Carrefour. Carrefour qui, par exemple, dans une ville de province comme Chambéry, aujourd'hui représente pratiquement 100% de la distribution des produits alimentaires, des produits de grande distribution. Hein, il y a deux carrefours énormes et puis ensuite un maillage phénoménal de petits carrefours market, de carrefours... Bref, tu bouffes Carrefour ou tu creves dans cette ville. Est-ce que ça c'est normal, hein? Allez, il faut ouvrir peut-être, hein, ça aussi, ça fait partie des choses, des pistes pour délivrer un petit peu la France de ses scléroses. Hein. Allez, au boulot les sauces, allez, allez, on se remue le cul. C'est Jeff à Chambéry.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Donc c'est Patrick du Repère de Vernin, Café Repère de Vernin dans la Meuse. On vous attend pour notre prochain rendez-vous ce mercredi, le 16 mai, à 20h30 à l'Estaminet, comme d'habitude, pour notre prochaine rencontre qui aura pour thème « Il est élu et maintenant ». Donc on fera le point sur les présidentielles, on abordera probablement les législatives, sans aucun doute, puis l'actualité du moment, voilà. Donc on vous attend nombreux, comme chaque troisième mercredi du mois, à l'Estaminet, à Verdun, ceci depuis plus de 3 ans maintenant. À bientôt.
Les nouveaux chiens de garde mordent toujours. Pour discuter de la taille des muselières nécessaires pour les neutraliser, les amis du cinéma de Vesoul, avec les amis de l'émancipation sociale et la CGT 70, ont invité Alain Genest de l'Acrimed, Action critique des médias, pour présenter le film de Balbastre Kergoat, ce lundi à 20h30, au cinéma Majestic de Vesoul. Projection suivie d'un débat. À ce soir.
À ma glace. Ta gueule. C'était le poète succinct. Salut.
Après le passage au parlant, après le passage à la couleur, l'industrie du cinéma est en train de vivre une troisième révolution, le numérique. Antonino Gallofaro a rencontré Yann Boromus. Il est projectionniste dans ce cinéma depuis bientôt 10 ans.
Payer sa télé en 4 fois sans frais, une voiture tout de suite, 4000 euros pour faire les soldes, c'est possible grâce à la magie du crédit. Mais voilà, un crédit vous engage et doit être remboursé, comme on le dit sur les pubs. Reportage de Camille Rebelle.
Il y a bientôt un an, le gouvernement décide de resserrer la vis contre les immigrés. Cette fois, il vise les étudiants étrangers. Étudiants étrangers sans papier, un reportage de Charlotte Gauthier.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chaot et Maud de Carpentier, Jeanne Bergaoui, Nicolas Burnins, la baffe et des petits.
Moi, j'ai pour habitude de dire que dans le transport, il y a un sport quotidien, c'est la triche.
Ici, dernièrement, j'ai été me présenter dans une place avec un CV. On m'a dit qu'on cherchait 15 chauffeurs. J'ai présenté mon CV, on m'a dit non, on cherche des Slovaques.
Nous savons que nous sommes exploités, mais vous savez, nous disent-ils, chez nous, c'est 450 euros par mois. Ici, c'est 1400 ou 1500. À la place des chauffeurs français qui sont à 2700, eh bien, nous, on accepte quand même cette situation par rapport à la vie de nos familles et de nos enfants au pays.
Ils sont Slovaques, Roumains ou encore Polonais et travaillent plus pour 3 fois moins qu'un chauffeur français. Plus rentable, plus compétitif, ces milliers de routiers à bas coût bouleversent le marché du transport européen depuis l'ouverture des frontières. Une concurrence venue de l'Est, souvent alimentée par les grandes sociétés françaises qui emploient cette main-d'œuvre bon marché en contournant parfois la loi. Récemment, trois routiers polonais se sont lancés dans un bras de fer juridique contre Norbert Dentresangle, l'un des leaders du transport européen. C'est une première. Chauffeur routier, la menace venue de l'Est, un reportage de Nicolas Burnand et Jeanne Bergaoui.
Et voilà, deux étudiants de l'école supérieure de journalisme de Lille, Jeanne et Nicolas, qui se sont lancés dans, sur ce sujet des chauffeurs routiers, au moment où, bien évidemment, c'est pas les salaires des routiers, des chauffeurs des pays de l'Est nouvellement intégrés à l'Europe qui augmentent, c'est le contraire, c'est ceux de chez nous qui sont amenés évidemment à être tirés vers le bas. Vieille stratégie patronale de baisser les salaires. On est bien loin de ces temps révolus où le routier faisait rêver. Souvenez-vous, le salaire de la peur. Le routier était vraiment un héros. Il y avait cette émission de radio que j'évoquais. Max Meynier, Les routiers sont sympas. Et puis la chanson de Francis Lemarque, tantôt interprétée par Yves Montand, avec le routier sur son volant, la route qui défile, loin des villes, etc. Il y avait tout un mythe comme ça, du routier, de son compagnon aussi, ils étaient deux, très souvent. Il y avait le sketch de Jean-Yann, si vous vous souvenez, ça me traverse l'esprit à l'instant, très très poilant sur le routier. Aujourd'hui, le métier est devenu vachement plus dur, les gars sont tout seuls dans leur bahut, exploités, surexploités, avec des nombres d'heures terribles, en dépit des soi-disant contrôles, mais on arrive à les contourner, et surtout une concurrence qui n'est pas seulement celle des pays de la partie est donc de notre Europe, mais qui sont des entreprises françaises qui s'implantent en Pologne ou ailleurs, ou en Slovaquie, comme on vient de l'évoquer, de façon à pouvoir employer, exploiter des gens qui travaillent évidemment pour des salaires inférieurs. Tel est le sujet choisi par ces deux étudiants, Jeanne et Nicolas, et ensuite le sujet de Maud de Carpentier, des ouvriers en bleu marine. Bleu marine. Voilà, deux sujets que nous avons choisis avec Antoine Chao parmi beaucoup d'autres, et aussi le fruit d'un vrai plaisir en fait, que ces ateliers de formation au reportage, je le disais en commençant, c'est une forme d'expression à laquelle, oui je dis bien d'expression, à laquelle nous sommes attachés, nous autres à la base si j'y suis, et nous autres à Radio France. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, là-bas, fais les petits.
La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes. Le routier à son volant, quitte rapide, n'a jamais, jamais le temps de regarder le firmament. Le jour se lève et décline sur la route qui chemine, il doit pousser sa machine, car c'est là qu'est son usine. Ignorant les autres routes qui s'en vont en musardant, le routier n'a jamais le temps de se perdre dans les champs. Si tu veux vivre longtemps, attention à ton volant, car la route se défend. Si tu rêves un seul instant, la route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes. Le routier à son volant, quitte rapide, n'a jamais, jamais le temps de se perdre dans les champs.
On vient juste d'arriver à Marquis, c'est entre Calais et Boulogne, on est dans la zone industrielle, il pleut, il fait froid, il fait gris, on est sur un espèce de parking avec au bout un hangar défraîchi, c'est l'entreprise de Pascal De Bruyne, c'est le patron d'une petite entreprise familiale de 25 employés à peu près, donc là je suis sur le parking, autour de moi il y a des espèces de mobil-home, il y a deux grandes remorques de camions. On est en train d'attendre sur le parking, mais dans quelques minutes, on va monter dans sa voiture et on va partir direction Calais.
Pascal De Bruyne, je suis gérant de la société Atalante Transport qui se situe à Marquise entre Boulogne et Calais, spécialisé dans le co-réceptionnel, et je suis aussi président du syndicat de l'OTRE du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
On va où là ?
Alors on va sur le ferry de Calais pour justement voir un peu tous les camions étrangers qui sont là en attente de chargement ou pour embarquer en Angleterre.
Expliquez-moi un petit peu votre entreprise, votre situation par rapport à la concurrence étrangère.
Bon, moi j'ai une entreprise d'une vingtaine de personnes, on fait beaucoup de convois exceptionnels, ce qui nous protège un petit peu justement des concurrents étrangers. On fait aussi du traditionnel où l'offre, on est vraiment confronté à la concurrence. Alors, on est tous des petits chefs d'entreprise à essayer de défendre notre gagne-pain et maintenant on commence à avoir des plaques roumaines, hongroises, croates. On va de plus en plus vers l'est parce que maintenant les Polonais arrivent à un niveau de vie un petit peu plus haut qu'avant, donc ils sont moins rentables aujourd'hui pour les entreprises qui les emploient que les pays encore plus à l'est.
Mais souvent ils sont employés par des sociétés françaises, des grosses sociétés.
Oui, il y a des grosses sociétés françaises qui ont licencié énormément de chauffeurs français pour pouvoir embaucher des chauffeurs étrangers. Mais les grands groupes, ils ont des juristes, des spécialistes qui étudient tout ça, qui sont là pour contourner les lois, pour essayer de trouver la petite faille et pour pouvoir justement faire encore plus de bénéfices et puis pouvoir racheter encore plus de sociétés et avoir un certain monopole.
Et vous, en attendant, vous avez un peu le couteau sous la gorge ?
Ah ben forcément, parce que de toute façon les clients comprennent pas pourquoi on est 10, 15, 20% ou quelquefois 30% plus cher que les autres, quoi. Parce que ils nous disent vous avez qu'à faire comme eux, prenez des chauffeurs étrangers.
Et là sur la route qu'on est en train de prendre sur l'autoroute, on peut croiser quoi comme plaque d'immatriculation ?
Si on croise un camion français sur 10, on a de la chance. Alors on va essayer d'en doubler quelques-uns, mais on va voir, c'est hongrois, tchèque.
Mais souvent, on a des camions avec des tractions françaises et des remorques polonaises. Comment on explique ça ? Ou le contraire ?
On a même des tracteurs bulgares avec des remorques, je ne sais pas quoi, slovaques, avec un chauffeur roumain, histoire de bien mélanger tout ça pour que les forces de l'ordre ont du mal à comprendre tout ça.
Là, on est en train de dépasser un camion, peut-être que...
Alors là, c'est une plaque belge. Ah, c'est un belge, ça. Est-ce que, je ne sais pas ce que c'est.
Slovaquie.
Voilà, exactement. Donc c'est bien un transporteur belge qui emploie des Slovaques pour tirer ses remorques. Et on ne sait même pas de quelle nationalité est le chauffeur. Ah oui, mais c'est affolant. Hey, les beaux bateaux aussi France.
Donc là, on est où là ?
Là, on arrive sur le port d'embarquement du Carferry à Calais. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ? Ils vont nous jeter, c'est certain.
Bonjour.
On est venu juste faire un tour pour voir les camions étrangers. Ils sont partis où les camions étrangers d'habitude ?
Écoutez, il faut aller voir directement mon chef d'équipe qui se trouve dans le département Sûreté, dans la cabane là-bas.
Ouais.
Il faut aller là-bas.
D'accord, merci. On va essayer d'aller station essence. Zone industrielle des dunes. Ah voilà, le camion il y va là. Voilà, là, des Bulgares, j'ai vu des Espagnols, ça va encore ça. Des Turcs, des Roumains, avec une remorque Giro, donc un transporteur bien français.
Ils sont deux dans la cabine ?
Ah ouais, généralement ils sont deux. Bon là c'est un Polonais qui transporte des camions français, génial. Ah le week-end c'est le camping. C'est le camping où tout le monde se fait à manger au bout de son camion, sort ses petites popotes. Ils ont des grands coffres sur les côtés pour pouvoir se faire à manger, parce qu'ils ne consomment quasiment rien en France. Généralement maintenant ils sont bien organisés et il y a des minibus qui viennent changer les chauffeurs avec tout le ravitaillement tous les 3 ou 4 semaines. C'est une belle organisation.
Là on est dans un espèce de grand terrain vague avec quelques camions parsemés, il y a juste rien à faire à part attendre.
Exactement, alors ils attendent des journées entières. apparemment, c'est d'après ce que j'ai entendu, c'est un peu lamentable parce que s'ils sont sur un parking sécurisé, si la douche n'est pas comprise, ben ils prennent pas de douche parce qu'ils ont pas les moyens. Et puis généralement, ben là, vous voyez, c'est des parkings où il y a rien, il y a pas de sanitaire, il y a rien. C'est vraiment, c'est de l'esclavage. Hein. C'est une vie lamentable, quoi. Là, on le voit, ils sont tous les rideaux fermés, puis ils dorment, ils attendent. Il est quand même midi et demi. Hein. Mais pendant ce temps-là, ben, on se fait prendre tout notre marché, même notre marché franco-français. Je me fais peur moi-même. Il y avait longtemps que je n'ai pas vu ça, en plus. On en parle tellement, puis... Faut pas rêver, hein. On est tous en train de se voiler la face, hein, les transporteurs français. On n'ose pas penser au lendemain.
Bonjour.
Julien, Cyril. Donc je suis président du syndicat national du groupe Norbert Entresangles, responsable de la formation fédérale, CFTC, et accessoirement défenseur prud'homal pénal et administratif.
Société française, elles s'y prennent comment pour aller engager ce personnel étranger?
Concrètement, c'est relativement simple sur des entreprises, enfin des groupes, là, parce que le groupe Norbert, c'est plus de 30 000 salariés, qui ont des moyens et des structures pour, et bien, ils créent des filiales en Pologne, c'est ND Polska, Norbert Entresangles Pologne. Il y a ND Roumanie, on a ND Iberica, ND Portugal. Donc ils créent des filiales, ils embauchent directement des salariés sur ces pays-là. Et ils s'occupent des rapatriements et des mises en service sur le territoire français. Ça se traduit par des salariés qui sont employés au départ et en fin de service sur le territoire français, avec des contrats polonais, roumains... portugais, espagnol, entre moins 20 et moins 50% au niveau du prix de revient d'un compte d'un salarié. Voilà. Alors il faut savoir les contrats français font entre 15 et 25 pages avec les règlements intérieurs, les annexes, etc. Le contrat polonais, voilà, il y a quelques lignes. Alors là, le salaire à l'époque, hein, c'était il y a 2 ans, le salaire était de 320 euros par mois, plus 40 euros de frais par jour.
Ça représente quoi ça?
Ben, 320 euros, un conducteur sous contrat français dans des conditions équivalentes, en salaire, il touche 1680 euros pour 200 heures à peu près, et en frais de route, il touche 52 euros. Donc on a un delta en salaire qui est de 1 à 5 en salaire, et pour les frais de route, le différentiel est moins important, mais il y a 15 à 20% de frais de route en moins. Et on voit qu'on leur met lavage, vêtements, travail, lessive, alors on leur donne 7,73 slotis, pour les vêtements de travail, ça représente 1 ou 2 euros. Voilà. Lessive, on leur donne 6,50 slotis, etc. Et puis on a toute la majorité du salaire qui est décomposée en différentes primes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type-là de contrat est en soi illicite, pour la simple et bonne raison que tout salarié de la communauté européenne est soumis aux mêmes dispositions réglementaires européennes en matière d'obligation d'information du salarié de ses droits. Or là, une page, aucune explication sur le droit des salariés en matière d'hygiène, sécurité, puisqu'on est sur des textes européens. Il n'y a aucune information, donc en soi, il est déjà attaquable même en droit polonais ou en droit européen.
On est samedi soir, on est à Calais, on est à la zone des dunes. Il pleut, il fait froid. Donc la zone des dunes, c'est la zone où on est passé il y a quelques jours, où il n'y avait pas encore trop de camions. Là, c'est samedi soir, les camions n'ont pas le droit de rouler. Donc il y a des dizaines et des dizaines de camions dérangés. Passent des camions roumains, des camions polonais, des camions tchèques, slovaques. Il y en a partout. Ils sont à l'arrêt. Là, il pleut, donc on voit personne dehors. Donc, on va aller plutôt faire du porte à porte. On est avec une traductrice polonaise, Kate. Donc là, on est en train de monter dans un camion. Bonjour.
Bonjour.
Vous parlez un peu français, non?
Non.
Non. Bon, alors on est dans la cabine, ça fait 2-3 mètres carrés. C'est assez sombre, il y a une bouilloire pour faire chauffer l'eau, une casserole, un bol, une sorte de trousse de toilette, 2-3 sièges, un ordinateur. Et on est donc avec un chauffeur polonais. Est-ce que je peux m'asseoir quelque part?
Je vais me mettre là.
Il s'appelle Jurek Jaworski, il a 57 ans.
20 ans.
Il travaille dans le boîte polonais. Oui, c'est une entreprise polonaise. Depuis 20 ans.
Combien de temps ça dure habituellement un trajet?
C'est 28 jours et après il revient pour à peu près 10 jours.
Comment on vit 28 jours dans son camion sans rentrer chez soi et comment on fait pour se faire à manger, pour dormir, pour se laver?
Spanie, jak widać, tu jest otwierane.
On a un petit frigo en dessous de la table. On a un lit à l'étage. On peut chauffer notre plat en utilisant la gaz. C'est pas trop mal, il se débrouille très bien, c'est même mieux que comme on était scout, on est parti en vacances, c'est pas trop mal.
Moja kuchnia, czyli duża butla.
Que voilà, avant cette situation, ça lui plu beaucoup. Il était même excité de passer ses journées toute seule et se débrouiller, mais au bout de 20 ans, c'est pas la même cas. Il a un peu marre de vivre ici, toute seule dans cette camion.
Il y a des grands groupes français, par exemple Norbert d'Entresangle, qui ont des filiales en Pologne. Et qui recrutent donc des chauffeurs polonais, qu'elles font ensuite venir en France, mais payer moins cher qu'un chauffeur français, mais plus qu'un chauffeur polonais.
Oui, effectivement, il a entendu parler, parce qu'il a parlé avec le chauffeur de compagnie Norbert. Il me dit que c'est vrai qu'il ne gagne pas beaucoup. Presque, on peut dire que ça peut être 100 euros plus, mais ils sont maltraités. Parce que les gens qui travaillent pour Norbert, ils doivent changer souvent leur voiture. Et en plus, le comportement de leur patron, de leur responsable, il est humiliant souvent, il parle mal aux chauffeurs polonais, ils sont insolents avec, ils demandent beaucoup, ils n'ont pas de place à dormir non plus, parce que voilà, comme ils doivent changer la voiture super souvent, ils ont nulle part à dormir, à rester en chaud comme lui pour faire ici, voilà.
Il
m'explique tout simplement que voilà, en Pologne, c'est super dur à trouver un travail. Certains gens, ils viennent de trouver travail chez Norbert, ils sont prêts à faire tout presque pour gagner, parce que quand même 1000 euros, même si c'est 1000 euros, tout court, c'est beaucoup en Pologne. C'est double des salaires moyens. C'est leur seule opportunité, en gros. C'est triste, mais voilà. On y va? Dziękuję.
Dziękuję. Bon, on est remonté dans la voiture avec Nicolas et notre traductrice Kate. On va changer de parking, là on est en direction de Dunkerque, on nous a indiqué le parking Transmart où apparemment il y aurait beaucoup de chauffeurs étrangers qui attendent le samedi soir. Bon alors là on arrive sur le parking Transmart, celui qu'on nous a indiqué, il y a pas mal de camions stationnés, on va ralentir pour regarder les plaques d'immatriculation. Je vois un camion Norbert d'Entresangle. Alors l'avant est français et derrière c'est polonais. Eh ben ça serait parfait. Ah, il y a un monsieur qui sort du magasin avec un pack de bière. Je vais essayer d'aller lui parler. Monsieur ?
Tak, je suis bête, tak, je suis la maison.
Alors là, on est dans notre voiture. On n'a pas pu monter dans la cabine du chauffeur polonais parce qu'elle est trop petite. Donc on est à 4 dans la voiture.
Litwicki Tadeusz, 42 lat.
Il s'appelle Litwicki Tadeusz, il a 42 ans.
Alors il est chauffeur polonais pour une compagnie française, Norbert d'Entresangle, c'est bien ça?
2 lat.
Exactement, depuis 2 ans.
Comment il a été recruté?
Il a trouvé son travail via Internet. C'est une boîte dans une ville en Pologne. Il recrute le chauffeur polonais pour travailler en France.
Comment il travaille en France? Parce que là, on a vu qu'il avait un avant, enfin un tracteur polonais. La remorque est française.
Il se déplace dans sa propre voiture jusqu'à un endroit où il va prendre un bus sponsoré par les compagnies Norbert. Et de là, il arrive en France où il prend son camion. De là, il va jusqu'à point de départ. Et de là, de la France, il se déplace dans presque tous les pays de l'Union européenne. Voilà.
Donc, il y a un point de rendez-vous en Pologne où il y a des bus qui les emmènent en France.
Exact.
Et de là, en France, on leur donne
disposition, voilà, où il doit aller. Exactement. Si ça sera France-l'Espagne, si ce sera France-Bulgarie.
Ça fait combien de temps, là, qu'il est parti de la Pologne?
C'est 24e jour, comme il est parti de la Pologne. Sa mission, ça dure environ 3 semaines.
Le confort, pour améliorer, to mogłoby być tak, że weekend, żebyśmy częściej
zjechali. Il se plaint de ne pas voir assez de temps au Pologne, comme il revient, parce que Norbert lui promis à passer 6 jours au Pologne. entre les deux missions, par exemple, mais il passe même pas 4 jours, parce qu'il passe quand même 14 heures dans le bus. Alors ces 14 heures, les comptaient comme son temps libre déjà en Pologne. Et au niveau de son salaire? Voilà, le foutage de gay se fait là. Ils travaillent pour le français. Ils devraient être payés comme un français. Mais parce qu'ils sont très malins, ils ont ouvert une filiale au Pologne. Ils recrutent. Alors, ils peuvent les payer le salaire très bas, le salaire qui correspond au salaire d'un Polonais. Du coup, ça ne couvre même pas sa sécurité sociale, sa assurance.
Combien il gagne alors?
Alors, c'est 350 euros par mois.
Ensuite,
il a des diètes, c'est entre 30 et 40 euros par jour. Il est obligé à ramener la nourriture de la Pologne parce que bah, il n'y a pas moyen d'acheter le produit ici en France. C'est trop cher.
Ça fait un petit 1000 euros.
Même pas. Ça, c'est dans le vraiment meilleur cas.
Quand il voit que les sociétés françaises le payent à peine 1000 euros, qu'est-ce qu'il ressent, lui?
Il est très en colère car il m'explique que les gens qui recrutent en Pologne, ils prennent un certain commission par rapport à chaque personne recrutée. Alors du coup, bah, ils sont très mal payés. Ils devraient être recrutés par rapport de France. C'est sûr et certain qu'un Français gagne presque comme trois Polonais.
Est-ce qu'il sait que c'est pas très légal? Et est-ce que les chauffeurs polonais, entre eux, ils n'ont pas envie de faire bouger les choses?
Ils ont essayé une fois de faire un grève, parce qu'ils sont vraiment mal payés. Ils ont gagné 2 euros par mois plus. On ne peut même pas compter ça. Ils ont gagné, ils n'ont rien gagné, parce que leur grève n'était pas plus sérieuse.
Mais lui, il a
encore envie de continuer à travailler pour Norbert d'Entresangle.
Malgré tout, Norbert, il paye quand même chaque mois. Il est bien réglo par rapport des paiements. Il n'est jamais en retard, ni quoi que ce soit. Et il n'arrive pas à trouver un autre travail qui lui permettra de gagner autant.
Combien sont-ils comme Tadeusz, le chauffeur polonais, à traverser l'Europe pour un salaire de misère? Difficile à dire. Selon la CFTC Transport, entre 10 et 15% des chauffeurs étrangers devraient être payés au tarif français. La France n'est pas une exception. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, les chauffeurs étrangers représentent une menace pour le marché, à tel point que certains descendent dans la rue. C'est le cas de ces chauffeurs belges croisés à Bruxelles.
J'ai occupé une place dans une boîte de transport qui donnait du travail à peu près pour 1000 chauffeurs. Donc c'est une grosse boîte européenne assez connue dans le monde du transport. Et lorsque j'étais là, on nous a appelé au bureau et on nous a concrètement signalé qu'il y avait des chauffeurs de l'Est qui allaient venir et que notre salaire allait diminuer.
Ici dernièrement, j'ai été me présenter dans une place avec un CV. On m'a dit qu'on cherchait 15 chauffeurs. J'ai présenté mon CV, on m'a dit non, on cherche des Slovaques.
Voilà, un chauffeur routier, la menace venue de l'Est, un sujet de deux étudiants de l'école de journalisme de Lille, Jeanne Bergaoui et Nicolas Burnins. C'est leur premier sujet, premier reportage sur France Inter. Évidemment, c'est les petits soldats et soldates du journalisme qui vont se lancer dans la carrière. Et on leur souhaite évidemment à tous bonne chance. Un autre sujet, celui-là d'une brûlante actualité, je le disais en commençant, jamais les oreilles loin du front. On se demande aujourd'hui lequel, FG ou FN, Front de Gauche ou Front National. On avait avec Antoine suggéré aux étudiants de faire des sujets sur, évidemment, sur les élections, autour des élections. C'est ces moments quand même où il y a des choses à dire, il y a des choses qui se disent, des choses qui se montrent de notre pays. Et on avait suggéré comme ça de faire des portraits d'électeurs de différentes sensibilités, et évidemment du Front National. Ça, c'était l'horreur totale. Ah non, 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 on fait pas ça. Ah non, on s'approche pas de ça. Le Front National, dans ces milieux de la petite bourgeoisie intellectuelle, c'est ça fait froid dans le dos et ça donne envie de vomir. Mais quand même, Maud Carpentier a dépassé sa répulsion, c'est-à-dire qu'elle a fait son boulot de journaliste, c'est-à-dire essayer de comprendre comment marche le monde, comment marchent les gens, et puis essayer de, une fois ayant compris, de nous faire comprendre tout simplement d'où ce portrait d'un électeur du Front National. Bien sûr, on sait toute la diabolisation dont les électeurs du Front National peuvent faire l'objet, le mépris ou la compassion sont des victimes, etc. Je crois pas précieux d'écouter ce témoignage. Il y a bien longtemps, je pense il y a une quinzaine d'années, dans la Basse, si j'y suis, j'avais fait un entretien comme ça avec un électeur du Front National. Et on avait intitulé cette émission « J'ai pris une bière avec Hitler ». Et ça n'avait pas manqué. Les auditeurs avaient été de France Inter, de là-bas, si j'y suis, à cette époque, avaient été effrayés, avaient dit « ça fait froid dans le dos et ça donne envie de vomir ». C'était simplement un brave type, un peu paumé, un peu égaré, dont on peut dire qu'il se trompait de colère. Maud Carpentier, des ouvriers en bleu marine.
On disait du mal du Front National, donc vous vous engagez tout doucement. Au début, j'avais un peu peur, mais bon, je me suis rendu compte que les gens qui étaient au Front National, c'était des gens comme vous et moi, tout simplement. Bah, déjà, c'était des ouvriers, donc on se méfie déjà moins. On dit, si eux y sont, c'est qu'il y en a raison.
Les ouvriers en bleu marine, un reportage à Lille de Maud de Carpentier, avant et après le premier tour. Donc voilà, là je suis arrivée au rendez-vous, je suis devant la maison, une petite maison en briques rouges, hein, comme il y en a beaucoup ici dans ce quartier, à LM, une petite ville juste au bord de la ville de Lille. J'ai rendez-vous avec Jean-Rémy Duménil. Bonjour. Vous êtes Monsieur Duménil?
C'est ça.
Maud,
ah ouais, non,
vous m'avez vu rôder.
Ils marchent ensemble, sans se séparer.
Ah.
L'union fait la force,
bon.
Chez les ouvriers, sur tous les chantiers, le cœur plein d'espoir.
Qu'on se soit là ?
L'espoir de changer,
ouais.
Cette société.
Je m'appelle Monsieur Duménil Jean-Rémy. J'ai bientôt 62 ans. Je suis né le 26 octobre 1950 à Saint-Maurice, Pelvoisin, ici. Allez, j'étais métallurgiste. J'ai arrêté en octobre 2010, en prenant ma retraite. Donc j'étais syndicaliste, j'étais militant à la CGT. Donc après je suis passé à la droite nationale et patriote. J'ai assisté une fois au congrès de la CGT en 82, je crois. Ici à Lille, par M. Moreau, qui était Premier ministre à l'époque, et c'est là qu'il nous a annoncé qu'il bloquait les salaires. Voilà, ça a commencé comme ça.
Donc là, vous vous êtes dit, on nous abandonne
Je me suis dit, on nous abandonne pas, on nous trahit, c'est différent. J'avais été licencié de... de l'entreprise automobile où je travaillais, Peugeot pour ne pas la citer. Je travaillais sur des machines-outils.
Donc vous avez fait ça pendant combien de temps ?
Là, 17 ans. C'est une usine qui avait pratiquement 3000 personnes. Fermée. Elle n'était pas encore fermée lorsque j'étais licencié.
Pourquoi vous avez été licencié ?
Parce que un petit peu à la fois, ils licenciaient des gens, quoi. Mais j'étais plus délégué, hein. J'avais rendu mon mandat, hein. Et je m'étais légèrement fâché avec mon syndicat.
Vous votiez à gauche, à droite, vous...
Ah, je votais à gauche à l'époque. Oui. Bah, disons que par tradition, on votait d'abord au parti, pour le parti communiste, hein. Et puis bon, malheureusement, il ne passait pas, donc après, au deuxième tour, on votait pour les socialistes. La politique, c'était pas notre but premier. Notre but premier, c'était d'abord de, comment dire, les conditions de travail et tout, etc. Et puis après, bon, éviter que l'usine ferme. Parce qu'on n'a pas réussi. Donc j'ai retrouvé un autre emploi. Et là, j'ai rencontré des gens qui étaient au Front National, qui ont commencé à m'en parler. Après, je suis allé, comment dire, à des meetings, à des réunions et tout. Et c'est comme ça que, bon, un petit peu à la fois, ben, je me suis intéressé et j'ai pris ma carte.
Allez-y, hein, si vous voulez.
C'est mon secrétaire fédéral. Oui, Eric.
Donc là, Jean-Rémy décroche et il va parler 5 bonnes minutes au téléphone avec son secrétaire fédéral. Il va parler tract, il va parler camion de livraison.
Vous voulez des photos?
Ouais, super.
C'est quand on défendait un copain qui devait être licencié.
Donc ça, c'est une coupure de presse.
C'est une coupure de presse.
Le titre, c'est « Enchaîné aux grilles de la préfecture ». Quand le ministre du Travail a reçu à la préfecture de Lille les délégations des organisations syndicales de salariés. Vous êtes en photo?
Oui.
Et vous faites partie des... Vous vous êtes enchaîné à la préfecture?
C'est ça.
Vous avez aimé cette période? C'était bien?
Eh ben, on vit déjà. Hein. On fait quelque chose. On se défend. On a la tête debout. C'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Quand on a des idées, il faut quand même les défendre. Hein. J'avais mes idées pour défendre les gens. J'ai pris ma carte au syndicat et puis je me suis présenté comme délégué syndical. J'ai même été responsable dans le syndicat. Et c'est comme ça. Donc maintenant, bon, je trouve que c'est le Front National qui me plaît, donc je prends ma carte. Ou alors je le fais pas. Au début, j'avais un peu peur, mais bon, je me suis rendu compte que les gens qui étaient au Front National, c'était des gens comme vous et moi, tout simplement. Bah, déjà, c'était des ouvriers, donc on se méfie déjà moins. On dit, bon, bah, si eux, ils sont, c'est qu'il y a une raison.
Donc la peur, elle est passée très vite, en fait.
Très vite. Surtout après que j'ai assisté à quelques meetings et réunions, oui.
Vous n'êtes pas dit je trahis quelque part l'esprit d'ouvrier, quoi.
Bon, d'abord, comme je vous ai dit, je suis d'abord passé dans des meetings, je suis allé rencontrer les gens du Front National, et en plus, je vais vous dire une chose, c'est pas moi qui ai trahi ou les gens qui sont passés au Front National. Ceux qui ont trahi, ben, c'est, comment dire, les socialistes et les communistes, hein. Qui a fait toutes les privatisations, sinon les socialistes, qui a bloqué les salaires et tout. C'est bien les socialistes, c'est pas les autres.
Et pas de réflexion donc de vos collègues ouvriers qui, eux, ont continué à être plutôt à gauche?
Comment dire, là où je travaillais entre-temps, bah disons que les ouvriers, il y en avait pas mal qui étaient adhérents au Front National déjà. Les anciens camarades que j'avais, certains m'ont dit que bon, ils approuvaient pas trop, mais qu'ils comprenaient certaines choses. Lorsque vous voyez le chômage qui monte, les salaires bloqués, les gens qui doivent aller, comment dire, au secours populaire, les restos du cœur, des gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, même en travaillant, des emplois précaires et tout, vous croyez que vous comprenez pas?
Et vous pensez que Marine Le Pen a les réponses?
Je pense que, bon, ça sera déjà un mieux. Voilà. Et puis, de toute manière, il ne faut pas laisser les gens qui nous ont mis dans cette galère aux commandes. Il faut les changer. Il faut qu'ils perdent. Là-dessus, je suis d'accord avec Mélenchon. Il faut qu'ils perdent tous, et lui avec.
Vous avez une fonction aujourd'hui, vous êtes secrétaire de circonscription, c'est ça?
C'est ça. J'ai d'abord commencé à militer, oui. Les saluer les tacles, les affiches, aller surveiller les bureaux des élections, etc., participer à des réunions. Et puis bon, je suis devenu secrétaire de circonscription. C'est quelqu'un qui doit s'occuper des adhérents, s'occuper de la distribution des tracts, du collage d'affiches et de coordonner un petit peu tous les militants qui sont sous sa responsabilité. Voilà.
Et alors j'ai vu, vous avez aussi été candidat au cantonal l'an dernier.
Je me suis présenté l'année passée au cantonal. Je suis arrivé au deuxième tour. Mais en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est que non seulement moi je suis passé au deuxième tour, mais les quatre cantons sur la deuxième circonscription, on était au deuxième tour dans tous les cantons. C'est-à-dire que à part le Parti Socialiste, le deuxième parti, c'est le Front National.
Et ça, pour vous, c'est une victoire, j'imagine.
Ah ben oui. Oui, ça, c'est même, je ne vais pas dire inespéré, parce qu'on a travaillé, hein, mais effectivement, hein, arriver deuxième parti dans une circonscription entière, il faut quand même le faire, non ?
Est-ce que vous avez pensé à votre passé de syndicaliste au moment de ces élections où vous vous êtes dit, oh là là, j'ai fait du chemin, hein, c'est...
Mais c'est pas antinomique, parce que, comment dire, lorsque j'étais syndicaliste, je défendais mes camarades de travail et tout, et maintenant, bah, je défends toujours les gens. Mais d'une autre manière. Voilà.
Mais je veux dire, c'est pas les mêmes valeurs, vous êtes d'accord, c'est pas les mêmes valeurs, le FN et le PC.
Les mêmes valeurs, mais tout, avoir des bonnes valeurs, se faire élire sur des bonnes valeurs et les trahir, est-ce que vous croyez que c'est bien? C'est pas la question des valeurs, ils vous mettent des valeurs, effectivement, ils sont gentils avec tout le monde, etc., etc. Mais en fait, ils le font pas. Bah, c'est comme Sarkozy, hein. Il vous promet mon émerveil, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Voilà. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, parti raciste, fasciste et tout, etc. Je vous dis, je vous donne l'exemple de l'immigration. Effectivement, quand on dit on est contre l'immigration, ben, les gens disent il est raciste. Non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé avec avec un tas de nationalités, surtout dans une entreprise automobile. Hein. J'avais jamais de problème. Je défendais aussi bien eux que... qu'un gars qui était né par ici, et puis que ses parents, ses grands-parents étaient nés par ici aussi.
Et vos parents, alors, eux, comment ils étaient? Ils étaient à gauche, à droite de l'échiquier politique?
Bon, on n'en parlait pas trop, mais je pense que mes parents étaient à gauche aussi, oui. On est d'une lignée d'ouvriers, oui. Ce n'est pas moi tout seul, c'est toute une famille qui est partie. Toute une famille qui est déçue.
8 à 7, 6, 5, voici notre estimation des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour.
Et vous allez le voir, le troisième homme, en fait, est une femme. Il s'agit de Marine Le Pen, 20% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon, 11,7%. François Bayrou, 8,5%.
Viennent ensuite Marine Le Pen.
Et les résultats, vous en avez pensé quoi?
Ah bah, ils sont bons, les résultats. On n'aurait pas fait être au deuxième tour, mais bon, les résultats sont magnifiques. Moi, je trouve qu'ils sont très bons. On est incontournable maintenant. Les Français sont encore un peu failleux, mais c'est une belle victoire. Les gens sont quand même... Ils se rendent compte qu'ils ne sont plus seuls. 6 400 000 votants, pas nous, bon, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus seuls. En fait, c'est ça, les gens se sentaient un petit peu isolés. Donc maintenant, on va essayer de les regrouper, de se les faire connaître tous ensemble, la dynamique est enclenchée.
Et alors, au deuxième tour, vous allez voter pour qui?
Je sais pas, j'attends les directives de ma présidente. Les socialistes, j'ai voté pour eux il y a très longtemps, j'étais très très déçu. Sarkozy, bon, ce gars-là, c'est un menteur à plein tube. Alors, je sais pas.
Si tous leurs espoirs se sont envolés, si toutes leurs usines se sont arrêtées, et si la machine les a sacrifiés, un cœur ne peut pas se remplacer,
Des ouvriers en bleu marine, un reportage de Maud Carpentier, voilà, de l'école supérieure de journalisme de Lille. C'était deux reportages issus de ce stage de formation que nous avons dirigé avec mon camarade Antoine Chao. Merci à toutes et à tous, merci aussi à Antonino Gallofaro, Charlotte Gauthier, Camille Revel-Mourose et tous les étudiants de l'école de Lille. Autre chose tout à fait différent, 26 et 27 mai prochain se tiendra le rassemblement annuel au plateau des Glières organisé par l'association CRHA, citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. Ce sera le samedi et le dimanche. Il y aura des grandes personnalités comme Xavier Mathieu, François Ruffin, Gilles Perret, Éric Toussaint, Mathieu Etiévin et bien d'autres. Et puis le samedi soir, ce sera le deuxième repère des repères de la base, j'y suis, à Torrent-Glières. Vous avez tous les renseignements sur le site www.citoyen-résistant.fr, www.citoyen-résistant.fr. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, sur le site la-ba.org également, ainsi que sur notre page Facebook. La technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Élodie Royer, Bertrand Chometon et Franck Adhérer et Antoine Chao ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter présente Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Film d'ouverture en compétition au Festival de Cannes le 16 mai au cinéma.
Dear Gigi, dear Sam.
Été 65, sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, Suzy et Sam, 12 ans, tombent amoureux.
One. Where?
Ils concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. La communauté des adultes décide alors de partir à leur recherche. Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton. Retrouvez Wes Anderson le 16 mai dans Downtown à 18h20.
France Inter présente Popea au Théâtre du Châtelet du 29 mai au 7 juin. Benjamin Biolay, Valérie Gabaye, Karl Barat, Frédéric Achtal, Marc Almond, quand des chanteurs pop mettent le feu à l'opéra et s'emparent du chef-d'œuvre de Monteverdi, il n'y a pas que Rome qui brûle. L'amour dévastateur de Popée et de Néron explose dans une version résolument pop mise en image par Pierrick Sorin. Retrouvez Popéa dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et des poussières sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Les infos, Laetitia Gaillet. Salut.
Le duel a officiellement commencé après Jean-Luc Mélenchon samedi. C'est donc au tour de Marine Le Pen de lancer sa campagne pour les législatives de juin prochain à Hénin-Beaumont. Donc c'est chose faite depuis cet après-midi. Sans jamais citer nommément Jean-Luc Mélenchon, la présidente du Front National a déclaré qu'elle combattrait contre tous les adversaires qu'elle aura face à elle. Nouveau centre PC, PS, Front de Gauche, écologiste et UMP. Marine Le Pen promet une campagne de terrain et de proximité. On reste à Hénin-Beaumont. Le tribunal administratif de Lille a annulé aujourd'hui le refus de séjour d'une joueuse de foot camerounaise d'Hénin-Beaumont. Le tribunal a motivé sa décision par une erreur de droit. Il oblige du coup la préfecture du Pas-de-Calais à réexaminer le droit de séjour de Rigoberte Emba dans un délai d'un mois et de lui donner d'ici là un titre de séjour provisoire. Rigoberte Emba joue depuis 2008 à Hénin-Beaumont en première division féminine de foot. On commence à avoir le déroulé exact de la journée de demain pour François Hollande. Journée chargée après la passation de pouvoir demain matin avec Nicolas Sarkozy. Le nouveau président rendra hommage à Jules Ferry et Marie Curie. Ensuite, il sera reçu comme le veut la tradition républicaine par le maire de Paris vers 15h. Et ce n'est qu'après qu'il s'envolera pour Berlin où il rencontrera Angela Merkel. Quand le nom de nouveau Premier ministre sera alors dévoilé, et bien logiquement à l'issue de la cérémonie à la mairie de Paris. Le rendez-vous de la dernière chance ce soir à partir de 17h30 en Grèce. Le président Papoulias va tenter d'arracher un consensus national entre les trois partis de la droite, du PASOK et de la gauche démocratique pour former un gouvernement de coalition. S'il n'y arrive pas, alors les Grecs auront droit à de nouvelles élections législatives le mois prochain. Le procès en appel de l'ancien général croate Ante Gotovina s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Considéré comme le héros de la guerre d'indépendance dans les années 90, il avait été condamné l'an dernier à 24 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce qui a motivé l'appel, c'est que les juges ont fait une erreur en première instance, explique son avocat. Ils se sont basés selon lui sur la règle de 200 mètres qui permet de déterminer si les tirs d'artillerie visaient à l'époque des cibles civiles ou militaires, si la munition est tombée en dehors de ce périmètre autour d'une cible militaire, alors on estime qu'elle visait une cible civile. Selon l'avocat d'Ante Gotovina, cette règle est erronée et le procès devrait durer une seule journée. Atlanta, Sydney, Athènes, Pékin et donc cet été Londres, en plus de participer à ses cinquièmes Olympiades, Laura Flessel sera aussi le porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. L'épéiste surnommée la Guêpe a été désignée cet après-midi par le CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français, un vote à bulletin secret où elle a donc devancé notamment le basketteur Tony Parker. À une journée de la fin du championnat de France de Ligue 1 de football, la mauvaise nouvelle pour l'OM, touché ce week-end à la cuisse gauche, Loïc Rémy est indisponible pour 3 à 4 semaines. Un coup d'autant plus dur que l'international français fait partie de la liste des joueurs présélectionnés par Laurent Blanc pour disputer l'Euro de foot à partir du 8 juin prochain. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Nancy Vieira, Grace, Yakuto. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Allez, on y va, Frédéric Ledéon, c'est à vous.
Oui, bonjour. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je salue aussi le conducteur de l'autobus 70 qui m'a amené avec d'autres passagers, bien sûr, jusqu'ici. Il écoute l'émission régulièrement, on en est très très content. Nous allons commencer avec une petite promenade, si vous voulez bien. Il fait beau sur Paris, j'espère que c'est pas trop mal chez vous non plus. Et on a bien envie de voir la mer. Alors au Croisic, ça tombe bien, au Croisic, c'est la ville qui était adorée par Claude Chabrol. Il allait en vacances, en famille, très souvent. On est tout près de Guérande, de la Baule, etc. Donc il y a un festival de piano classique qui commence le 17. C'est un beau week-end avec plein de musiciens, des jeunes, des très connus, des moins connus. En tout cas, tout ça, ça vaut le déplacement, ou en tout cas, d'aller tendre une oreille. Et jeudi, c'est le récital d'ouverture avec Jean-Frédéric Neuburger, qui est un prodige, pianiste, compositeur absolument époustouflant. Et ça tombe bien, je sais qu'il adore l'eau, Jean-Frédéric. Alors, comme les concerts se passent à la criée, c'est-à-dire c'est une sorte d'avancée sur la mer, une sorte de presque de nef flottante sur le port du Croisic, et bien je pense que Jean-Frédéric sera très heureux. Le voici dans la gigue de la deuxième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Jean-Sébastien Bach, gigue de la deuxième suite anglaise en la mineure, par monsieur Neuburger, maestro, même s'il est très jeune, Jean-Frédéric Neuburger, qui sera là. Le disque qu'on a entendu était gravé au Japon, mais enfin bon, il sera plus près de nous, jeudi 17, qui vient à 21h, donc au Croisic, à la Criée, il y aura du Bach, il y aura du